Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes ancien diplomate d'origine russo-ukrainienne, porte-parole de la Perestroïka. Vous êtes également l'écrivain d'origine russo-ukrainienne le plus édité en Europe. Et votre dernier livre s'intitule « Sorge, un espion pour l'éternité ». Il sort cette semaine aux éditions Balland. Alors, Vladimir Fedorovski, on a demandé à nos auditeurs si, selon eux, c'était normal que la Russie préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors justement, quel est votre avis à vous sur cette question ?
Vous savez, si on accepte l'existence des Nations Unies en tant qu'organisation, il y a des règles aux Nations Unies qui sont très précises et ce sont des règles qui doivent être respectées. Mais comme les Nations Unies, comme le système international est en train de plonger. Dans ce cas-là, on peut, vous savez, il y a deux solutions. Soit on fait éclipser les Nations Unies pour l'avenir, et dans ce cas-là, on termine avec cette affaire de la présidence de la Russie, ou soit on essaye de maintenir les contacts au sein des Nations Unies. Pour ma part, comme je pense, on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité, et les contacts sont rompus, les Nations Unies peuvent jouer un certain rôle pour éviter la guerre mondiale qui nous attend tous, parce qu'à mon sens, on va tout droit vers la guerre mondiale. Tous les scénarios que j'ai, avec ma modeste expérience de fossoyeur de la guerre froide, je vois, nous ramènent à l'apocalypse.
Donc selon vous, on doit laisser la Russie pour présider le Conseil de sécurité de l'ONU ?
Vous savez, il y a deux solutions. Soit la solution qu'on fait exploser les Nations Unies, parce que les deux membres de Conseil de sécurité, au moins, et d'autres, notamment la Chine et la Russie, se prononcent pour respecter les règles qui existent aux Nations Unies, soit on fait autrement, c'est-à-dire on repense ça, mais dans ce cas-là, ce sera une autre chose que les Nations Unies. Mais cela dit, pour être franc, depuis la fin de la guerre froide, les Nations Unies, ils sont en train d'aller vers une sorte d'éclipse, parce que le rôle des Nations Unies devient de moins en moins important.
Oui, voilà, justement, à ce sujet, Vladimir Fedorovski, j'avais une question au sujet des Nations Unies. On voit souvent à l'Assemblée générale de l'ONU des sanctions depuis le début de la guerre de la Russie en Ukraine, des sanctions contre la Russie. Bon, on en voit aussi contre l'Iran, mais surtout contre la Russie. Ça sert à quoi, finalement,
absolument,
tout ça ?
Absolument, mais les sanctions, vous savez, selon comme j'étais très impliqué aux Nations Unies, les sanctions peuvent être votées seulement par le Conseil de sécurité, selon la Charte des Nations Unies. Autrement, ça c'est d'autres choses, et on sort dans le cadre, disons, de droit tel qu'elle existait après la Deuxième Guerre mondiale.
Mmh. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que malgré toutes ces sanctions, ça ne change pas grand-chose et la Russie va continuer sa guerre ?
Vous savez, c'est pas seulement ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, le monde est dans l'impasse. Je vous ai dit, je suis très inquiet comme un défossoyeur de la guerre froide. Une telle approximation de l'analyse, un tel mélange de genre entre la propagande et la politique réelle qu'on va tout droit, à mon sens, vers la guerre totale. Et ça m'inquiète terriblement parce que, vous comprenez, il ne faut pas se leurrer. Il y a aujourd'hui des clivages terribles qui sont apparus. D'une part, c'est comme dit si bien dit, et c'était l'autre jour Le Figaro, il a titré l'Ouest contre le reste. C'est-à-dire, il y a l'Ouest avec l'OTAN qui est devenu de plus en plus visible, il y a de nouveaux membres de l'OTAN, il y a quelques jours, Finlande est devenue membre de l'OTAN, et le reste. Essentiellement, il y a une véritable partenariat entre la Chine et la Russie, mais au-delà de la Chine ou de la Russie, il y a un grand partenariat avec l'Inde. Et puis le reste des pays du monde, vous comprenez, il y a une dédollarisation, il y a beaucoup de facteurs qui sont bien présents aujourd'hui sur la scène internationale et ça donne le monde de tous les dangers. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui a géré la crise de Cuba, qui était un des derniers survivants, il a plein de mépris pour les gens d'aujourd'hui. Il a dit, si on aurait géré la crise de Cuba comme elle gère aujourd'hui, le monde est allé vers l'apocalypse. À l'époque, les gens essayaient de trouver l'issue au conflit. Ils ont pensé aux intérêts. Maintenant, aujourd'hui, il y a des erreurs. Mon dernier livre, il parle de ça. Parce que Sorge, c'était un des plus grands agents secrets du XXe siècle, mais un grand penseur politique, il dit qu'il y a un grand danger aujourd'hui qui nous guette aujourd'hui, à mon sens, c'est l'approximation de l'analyse et le désir de prendre c'est-à-dire le souhait de prendre ses désirs pour les réalités, comme on dit maintenant à Paris, la dictature de politiquement correct.
Alors, Vladimir Fedorovski, vous parlez de vos craintes d'une troisième guerre mondiale et vous n'êtes clairement pas le seul à penser cela. Et comme on parle de guerre mondiale, on peut s'empêcher de penser bien évidemment à défense militaire. Et justement, je voudrais parler avec vous maintenant de l'OTAN. L'OTAN qui s'est agrandie en accueillant la Finlande au sein donc de l'Alliance. Et suite à cela, la Russie, qui partage une frontière de 1300 km avec la Finlande, a promis des contre-mesures. Alors, est-ce que ce sont des paroles du Kremlin, de Poutine, juste comme ça, ou bien il y a vraiment une réelle inquiétude de ce que pourrait faire la Russie suite à cette adhésion de la Finlande à l'OTAN?
Non, c'est pas... Finlande en soi, ça ne change pas grand-chose. De toute manière, je pense que les stratèges russes, ils ont déjà pris en compte ça depuis longtemps. La Finlande a quand même travaillé étroitement avec l'OTAN. Je ne pense pas que les Finlandais ils vont quand même déployer les armes nucléaires à ses frontières. Mais vous comprenez, on est dans le monde pire que la guerre froide. Il ne faut pas se leurrer. J'ai participé aux 20 traités, j'ai préparé les 20 traités pour l'imitation des armes. À l'époque, j'ai travaillé même avec le président américain actuel, qui était un grand spécialiste de contrôle des armes, Biden. Sur ces 20 accords, il n'y en a pas. Tout est détruit. Il y a encore sous Bush père, ils ont sorti des armes antimissiles. Tout ça, c'est... Vous savez, je vais vous dire, moi je ne vous cache pas que c'est tellement pitoyable le monde aujourd'hui. Parfois, je ne dors pas la nuit. Je pense qu'il y a une très très grande approximation des analyses et des erreurs des analyses qui sont là. Je vous dis, la propagande devient la politique réelle, les gens mentent et croient à leurs mensonges. D'où vient finalement mon dernier livre, qui est un livre très enflammé, parce que c'est un prototype de James Bond, il y a des histoires d'amour, mais sur le fond, ce qui m'inquiète surtout, cette approximation de l'analyse qui saute aux yeux, et finalement, les mainstreams occidentaux, souvent, répètent la même chose, croient à ce qu'ils racontent, et tout ça, ça nous donne le monde de tous les dangers.
Je trouve ça intéressant ce que vous dites sur le fait que tout le monde ment et tout le monde et la propagande devient finalement le médium en lui-même. Alors on a
quand non, on... pas tout le monde. Vous ne mentez pas, s'il vous plaît, ne dites pas les contre-vérités. Moi, je ne mens pas. Simplement, ce qui m'inquiète, vous savez, c'est humain, auto-intoxication. Il y a Sorge, il a parlé de prendre les fantasmes pour les réalités. C'est gravissime, je ne vous cache pas que moi, comme je suis d'origine ukrainienne aussi, je ne dors pas la nuit parfois, parce que c'est une chose qui nous ramène automatiquement. Moi, j'aurais pu vous prouver avec les scénarios même militaires sur le terrain, ça donne chaque fois les choses, sans parler de 15 réacteurs nucléaires, tous les jours qui se trouvent en Ukraine. Toutes les semaines, il y a l'Organisation internationale de contrôle de l'énergie atomique provient du danger de nouveau Tchernobyl. Là-bas, tout ça, c'est vraiment pitoyable. Et vraiment, quand j'ai parlé avec mon ami adjoint de McNamara de la crise de Cuba, hélas, la comparaison est en faveur de l'autre époque. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous comprenez, à l'époque, les gens qui géraient ces affaires, c'est les gens qui connaissaient la guerre pas dans l'ordinateur. Ils connaissaient la guerre dans leur chair, vous comprenez. Mm-hmm. C'est les gens qui ont souffert. Il y a, pour vos éditeurs, les grands dirigeants d'Israël, par exemple, j'ai eu la chance de les connaître. Ils ont été, c'est les gens qui ont connu la guerre dans leur chair. Aujourd'hui, vous savez, c'est les gens bizarres, pour moi, c'est les gens qui connaissent la guerre surtout dans l'ordinateur. Et je pense très sincèrement qu'il y a des erreurs, les approximations, ça concerne Poutine. Au début de la guerre, il a fait évidemment les approximations et des erreurs d'analyse, mais les sanctions, ça saute aux yeux, ça ne marche pas. Ce n'était pas comme ça que c'est prévu. Tout ce qu'ils ont raconté, que Poutine sera destitué, toutes ces bêtises qu'ils racontent, qu'on raconte dans la presse, tout ça, c'est pitoyable. Et c'est pour ça que je publie ce livre, pour vous alerter. Il faut être très précis dans l'analyse.
Oui, tout à fait. Donc, ok, tout le monde ne ment pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de menteurs. Donc, on nous présente, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce conflit comme d'un côté les méchants russes et les gentils ukrainiens slash occidentaux.
Non, on présente Poutine comme Hitler de temps moderne. Et quand dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont combattu, ukrainiens, s'il vous plaît, qui ont combattu Hitler, ils ont péri sur le front pour combattre Hitler. Vous savez, je vais vous dire une chose, puisqu'on est entre les gens sérieux avec vos auditeurs. Je pense que les parallèles historiques de ce genre-là, il faut être très prudent. Mm-hmm. Parce que Hitler, pour moi, c'est un mal absolu, d'une part. Quand il parle de génocide, ça me gêne toujours. Maintenant, les génocides, il utilise le mot génocide pour tout. Et je sais ce que ça veut dire, le génocide, pour vos auditeurs. Tout ça, il faut être très précis quand on parle des choses essentielles. Et il s'agit aujourd'hui de destin du monde. Je vous dis très sincèrement, je suis très inquiet parce qu'on va tout droit vers la guerre totale. Et il faut penser non seulement aux assurances-vie de temps à l'autre, mais c'est surtout à l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants.
Évidemment. Et là où je voulais en venir, c'est justement cette façon de nous présenter la guerre en Ukraine. Ça veut dire que selon vous, il y a de la propagande un peu partout et pas seulement en provenance du Kremlin, aussi des Occidentaux ?
Non, mais vous savez, je vais vous dire, moi j'étais critique de Poutine avant l'heure. J'ai fait 4 heures de Poutine, même pas. Quand les gens ont travaillé avec Poutine, j'étais déjà critique envers Poutine. Je n'ai rien à prouver avec mes origines d'ailleurs ukrainiennes sur ce plan-là. Mais je dis simplement qu'il y avait des erreurs d'analyse de l'Occident. Mmh. Il y a deux que je vous ai relevées. Ça, c'est évident que les sanctions ne marchent pas comme prévu. Je vais vous dire, quand j'ai parlé avec les Occidentaux le lendemain de commencement de cette tragédie, le 24 février de l'année dernière, je vous signale, ils m'ont dit que la Russie va s'écrouler une semaine après les sanctions. Une semaine. Il y a un ministre français qui a dit qu'il va mettre la Russie à genoux. Moi, j'ai dit l'autre fois, faites attention, ne prenez pas vos désirs pour la réalité, ça passera comme ça. Les Russes vivent, ils ont une résilience, il suffit de relire Tolstoï. On m'a corrigé après, et ces gens-là, ils doivent lire Tolstoï, pas relire. Mais vous savez, tout ça, c'est évident, ça ne marche pas comme ça. Mm-hmm. Ils ont dit que le Poutine sera destitué, il est toujours là. L'alternative à Poutine, tout ça, c'est Staline, tout ça, c'est vraiment... pour être franc, quand je vous parle, comme vous êtes, je vous aime beaucoup et j'aime vos auditeurs, je dois vous alerter des choses sérieuses.
Merci à vous, Vladimir Fedorovski. Je rappelle à nos auditeurs votre dernier livre, Un Sorge, un espion pour l'éternité. Il sort cette semaine aux éditions Ballant. Merci, c'est toujours un plaisir.